Je voudrais aussi saluer tous très chaleureusement dans le précieux nom du Seigneur. Je souhaite à tous les riches bénédictions de Dieu de tout mon cœur. Nous nous attendons à ce que Dieu nous bénisse et qu'il sera avec nous et qu'il nous parlera comme en partie nous l'avons aussi chanté. Et nous espérons aussi que nous ayons aujourd'hui et aussi demain une vue d'ensemble, bref, sur ces 20 ans passés concernant ce que Dieu a fait. Nous sommes heureux de ce que vous pouviez tous venir, particulièrement tous nos voisins. Nous vous souhaitons à tous particulièrement les bienvenus. Il y a beaucoup de salutations par téléphone et aussi des souhaits de bénédiction qui nous ont été envoyés par télégramme. Beaucoup de souhaits de bénédiction, particulièrement pendant ces deux jours. Car la parole du Seigneur, n'est-ce pas, a atteint les extrémités de la terre. Elle n'est pas restée cachée. Ce que Dieu a fait n'est pas resté caché. Beaucoup auront voulu venir. Le frère Marco Fori a appelé aussi et nous salue tous. Le frère Lackner a appelé et salue tout le monde. J'ai essayé de me noter les noms de ceux qui ont appelé. En tous les cas, beaucoup ont adressé encore leurs salutations, leurs souhaits de bénédiction à tous. Et je voudrais ici les avoir remises. Et si les choses vont pour vous comme moi, alors il y a la reconnaissance dans nos cœurs. La reconnaissance pour ce que Dieu a fait. Je pense que nous devrions encore chanter un chœur et ensemble à ce cantique. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent du Sud et du Nord. Il s'assied au festin dans la salle céleste et écoute les paroles du Sauveur. Il voit sa face, il boit de la béatitude. Il chante là-bas des cantiques de joie dans toute éternité. Et particulièrement, ce cœur, ils viennent des fleuves, des tempêtes, ils viennent des chemins épineux, ils viennent des montagnes. Ils viennent des vallées, à l'endroit où l'âme se repose. Ils portent le vêtement des noces. Ils rencontrent l'époux qui les a rachetés de son sang sur le bois rude au calvaire. Ça, c'est le centre de notre prédication. Jésus-Christ, le crucifié. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Connu dans toutes les langues. C'est ainsi que ce sera. À la fin de ce que Dieu maintenant fait, donc sera la rencontre avec l'époux. L'épouse le verra, le rencontrera. Et nous en sommes convaincus parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Les promesses de Dieu restent valables. Elles ne changent jamais. Éternellement, car c'est par son sang que Jésus a scellé ce qu'il promet dans sa parole, dans la parole. Et là, même que le ciel brûle, que les montagnes disparaissent, celui qui cherche constatera que la parole de Dieu reste éternellement vraie. Nous sommes heureux de ce qu'il nous a cherché, il nous a trouvé, et que nous avons la grâce de lui appartenir, d'être sa propriété. Nous sommes aussi reconnaissants et heureux de ce qu'il nous a ouvert les yeux pour que nous puissions voir les miracles dans sa parole, les miracles des promesses et leur accomplissement, les miracles que Dieu a faits seront vus par ceux pour qui ils sont déterminés. Car il y a des gens qui ont des yeux et qui ne voient pas, qui ont des oreilles et qui n'entendent pas. Et ensuite, il y en a d'autres à qui Dieu a ouvert les yeux, a ouvert les oreilles a ouvert le cœur pour qu'ils puissent entendre, écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Nous regardons aujourd'hui, ou bien alors dans ces jours, à 20 ans en arrière, qui sont passés très rapidement, à 20 ans dans lesquels Dieu a fait de grandes choses. Je me rappelle encore très bien, particulièrement aux pays voisins dans lesquels, pour la première fois, nous avions prêché la parole là-bas. Et je pense à plusieurs choses, je pense à Cairo, je pense à la Suisse, je pense à l'Autriche, où nous avions prêché la parole pour la première fois, je pense à la Belgique, je pense à Bruxelles, je pense à Paris, je pense à Lyon, je pense à beaucoup de villes où nous avions été pour la première fois. Je pense aussi bien à l'Europe de l'Est. Et par toutes les difficultés, nous avons prêché la parole du Seigneur là-bas qui a saisi notre cœur, nous l'avons porté. Et avec sûreté, ce sera une grande récolte qui sera moissonnée. Une grande moisson, pardon, qui sera récoltée. Et je suis convaincu que la moisson est encore dehors. Et à notre frère Branham, il a été donné à peu près 20 ans pour exécuter son service, pour prêcher, pour parler, pour nous dire ce que nous devrions savoir. Et maintenant, nous avons à peu près aussi eu 20 ans pour traduire et pour mettre à la disposition du peuple de Dieu dans les différentes langues, les prédications. Et maintenant, nous sommes devant cette grande question. Qu'est-ce qui doit maintenant arriver? Qu'est-ce qui doit suivre maintenant? Je ne me souhaite pas encore 20 ans de service. Je souhaiterais pouvoir dire, et je le dis de tout mon cœur aussi, viens bientôt Seigneur Jésus, mais je n'en voudrais à personne si le Seigneur nous accordait encore plusieurs années de bénédiction. Cela serait très bien pour moi. De toute manière, il reviendra tel que cela a été fixé, au temps convenu, au temps fixé. Et là, aucun de nous a l'influence. Mais nous nous réjouirons tous, s'il nous accordait des années de bénédiction spéciale, des années dans lesquelles nous sommes vraiment un seul cœur et une seule âme, où nous avons quitté les maladies de bébés, d'enfants nous ont quittés, et nous avons été guéris de toutes ces maladies de bébés et d'enfants, où on accepte chacun tel qu'il est, où on ne sort à personne, et où nous pouvons tous ensemble marcher et aller ensemble de l'avant, comme au commencement. Ils étaient un seul cœur et une seule âme. Où nous pouvons vraiment être un seul cœur, une seule âme, pour que Dieu puisse confirmer sa parole. Et cela va avec, et je crois que cela arrivera. Le temps de la confirmation divine est là. Nous n'avons pas besoin de ce temps pour croire. Nous croyons de toutes les manières. Nous croyons Dieu et nous croyons sa parole. Pour nous, la parole est déjà confirmée depuis longtemps. Elle n'a pas maintenant besoin d'être confirmée pour que nous puissions croire. Non. Mais si nous voulons, ou bien alors si Dieu a cette intention encore d'ajouter d'autres à son peuple, alors c'est une grande aide et le secours que Dieu peut nous accorder dans la prédication de sa parole, dans l'annonce de sa parole, c'est qu'il puisse confirmer la parole que nous annonçons en la faisant accompagner de miracles, de prodiges puissants. Ça, c'est un grand secours, un grand soutien. Ce n'est pas la chose elle-même, mais un grand soutien de l'œuvre de Dieu dans laquelle le Seigneur lui-même, n'est-ce pas, rend témoignage de la parole de sa grâce et la confirme. Nous sommes le résultat de la parole. Nous sommes une partie de la parole. Nous sommes devenus une partie de la parole. Et c'est justement à cela, à cet objectif que les prédications de frère Branham ont été tenues, que l'Église soit sortie de tout, soit prise de tout, à sortir de tout ce qui la sépare de Dieu, et que l'Église puisse être rapportée en accord total avec Dieu et la parole de Dieu. Je crois que hier ou bien avant-hier, je l'ai dit, un homme qui n'est pas en accord avec Dieu n'a pas besoin de prier, parce que Dieu n'exaucera pas de toutes les manières ses prières. Nous devons d'abord être en accord avec la parole de Dieu, avec Dieu. Et cela ne peut que être possible, si nous sommes en accord avec sa parole, alors nous sommes en accord avec Dieu. Si nous sommes en accord avec sa parole, alors nous sommes aussi en accord les uns avec les autres. Nous sommes accordés les uns avec les autres. Si nous sommes accordés avec Dieu et avec sa parole. Et alors c'est ainsi comme ça que nous sommes un seul cœur et un seul âme et une seule âme. Et Dieu alors peut confirmer sa parole parmi nous telle qu'il a promise. Telle qu'il a promis, pardon. Et comme je les ai dit, je pense à ces jours, à plusieurs événements. Déjà en 1964, j'avais entrepris mon premier voyage missionnaire en Inde, encore du vivant de frère Branham. Et ensuite, est venu ce jour décisif en avril 1966, alors que frère Branham, je voulais justement dire, fut enseveli, mais non, c'est pas lui, c'est seulement sa tante, son corps. Lui, il est dans la gloire. Les croyants ne meurent pas. Ils font que changer leur domicile. Ils ont la vie éternelle. Ils font que, n'est-ce pas, ils font que passer du temps à l'éternité. Mais c'était déjà un jour spécial, un jour particulier. Et nous avons, il n'y a pas longtemps, parlé qu'il y a dans notre vie des jours particuliers dans l'histoire dans l'histoire du salut, et il y a des jours particuliers, oui, auxquels nous pensons. Et ça aussi, ce fut un jour particulier. Et tous ceux qui ont aimé frère Branham, c'est tout un monde qui s'est écroulé. Et si le Seigneur n'avait pas donné des ordres auparavant, des instructions, aucun homme vraiment aurait su comment les choses doivent continuer. Et nous avons dû le voir à l'endroit même pour s'en faire une opinion. Mais Dieu a connu les choses ainsi que lors de l'ensevelissement, j'ai pu être présent. J'ai vu comment est-ce que le cercueil descendait dans la tombe. Mais le même jour, j'ai déjà écrit, vous allez pouvoir le lire, encore le même jour, les larmes ont changé, se sont arrêtées, et la douleur, tout cela s'est changé en une assurance. Et avant que le jour, que le soleil de ce jour se couche, ça parlait dans mon cœur. Le temps est arrivé pour toi pour distribuer la nourriture. Et devant mes yeux spirituels a apparu l'image de ce qui arriverait. Et c'est ainsi que j'en ai parlé à plusieurs frères et je leur ai ensuite dit ce que le Seigneur a promis à l'avance et ce qu'il a dit et ce qui maintenant doit arriver. Alors, j'ai écrit cette phrase, sans moi, il n'y aurait pas eu de propagation du message de la fin des temps, tel que sans frère Branham, il n'y aurait même pas eu de message de la fin des temps. Oui, tu dis amen, Herman Klingel. Mais c'est une chose dure de le dire, mais c'est la pure vérité. Dieu a réellement pris soin pour tout à l'avance. C'était pas nos plans. Nous-mêmes, nous n'avons pas connu le plan de Dieu. S'il n'avait pas révélé son plan, nous ne le saurions pas jusqu'à aujourd'hui. Mais quand je regarde aussi à toutes ces années passées, et vous aussi, si vous le faites, vous pouvez témoigner, n'est-ce pas, que l'Esprit de Dieu nous a conduits plus profondément dans la parole, les contextes, nous les a révélés, pour qu'aujourd'hui, nous pouvons plus les voir et les comprendre que nous les avons vus et compris il y a 20 ans d'ici. Si le Seigneur nous accorde encore un temps sur terre, nous pourrons encore dire la même chose. Mais j'étais directement responsable de ce que les prédications de Frère Branham soient imprimées, aient été imprimées. Pas une seule prédication aurait été imprimée s'il n'y avait pas eu un frère Frank. J'ai pas quitté Jeffersonville après le décès de Frère Branham jusqu'à que le frère Borders m'ait promis qu'il imprimera les prédications de Frère Branham parce que je savais que nous devons les avoir comme matrice pour nos traductions. La dernière prédication que Frère Branham a tenue a été éditée un an plus tard, du 12 décembre 1965. Et c'est comme ça que, selon la détermination et prédestination et directive divine, j'ai eu la grâce d'être une partie de l'action liée à l'histoire du salut de notre Dieu dans cette génération. Comme je l'ai dit, on ne demande pas un service mais une mission. On reçoit cela du ciel sans que la personne le sache auparavant. Et quand je regarde à ces années en arrière, c'est passé vraiment par les vallées et les montagnes, par des hauts et des basses, par des incompréhensions et par toutes sortes de difficultés. Le frère Rousse a lu une parole qui ne pourrait pas mieux être adéquate à ces jours. Nous avons tous lu 2 Corinthiens 6, verset 7, dans la parole de vérité, par la puissance de Dieu. Je me réfère à la parole qui a été lue comme introduction dès le verset 7, 2 Corinthiens 6. Dans la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes de la justice, à l'attaque et à la défense, sous l'honneur, sous le déshonneur, avec une mauvaise et une bonne réputation, comme si nous étions des séducteurs et pourtant véridiques, comme ceux qui sont inconnus et pourtant bien connus, comme ceux qui meurent et voici que nous vivons, comme ceux qui sont châtiés et pourtant non tourmentés jusqu'à la mort, comme ceux qui souffrent, mais pourtant qui se réjouissent toujours, comme des mendiants, mais pourtant qui enrichissent beaucoup, comme ceux qui n'ont rien, mais pourtant qui possèdent toutes choses. Je voudrais être un tel mendiant qui enrichit beaucoup. Ce serait, n'est-ce pas, une bonne chose si Dieu pouvait encore nous déterminer à cela, donc, comme mendiants terrestrement, mais qui spirituellement peuvent rendre riches beaucoup. Notre bien-aimée sœur de Sarrebruck, elle m'a rendu un merveilleux témoignage aujourd'hui, il y a 25 ans d'ici. Elle avait écouté ce cantique tel que je suis, sans rien de moi. Et ça l'a touchée. Et aujourd'hui, elle a trouvé le Seigneur et elle est heureuse de reconnaissance. Ce ne sont pas seulement des hommes qui sont venus, n'est-ce pas, des églises qui étaient déjà croyants, mais il y a aussi des hommes qui n'étaient pas croyants auparavant, qui ont été sauvés et qui ont maintenant trouvé la grâce et le salut et ont été ainsi ajoutés à l'église du Dieu vivant. J'ai dit, comme déjà dit auparavant, il y a beaucoup de témoignages qui peuvent être rendus concernant ce que Dieu a fait. Mais nous, comme hommes, nous pensons bien sûr que quand Dieu envoie un homme, alors il est au-dessus de tout, alors il est un Dieu à moitié. Non. Même les prophètes qui ont été appelés des dieux étaient tous que des hommes, comme toi et moi. Ils avaient leur côté humain, mais Dieu était avec eux. Et de quoi il s'agissait en fait? Est-ce qu'il s'agissait d'un grand prophète? Non. Il s'agissait du grand Dieu qui révélait à son peuple et qui avait révélé à son peuple son grand dessein de salut. Ils étaient des porteurs des promesses divines. Ils n'étaient pas la parole. Ils étaient des porteurs de la parole. La parole elle-même est le Seigneur, car la parole est devenue chair et a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. Bien sûr que chacun qui a reçu la parole était aussi participé à la parole. Prenez part aussi à la parole. Et c'est la même chose aussi dans notre temps. Et nous allons encore devoir l'observer encore plus en détail pour comprendre que nous ne sommes pas seulement des spectateurs, mais nous sommes participants de ce que Dieu fait maintenant. Nous en prenons part consciemment. Et que aussi nous avons des promesses pour notre époque qui trouvent leur accomplissement et vont trouver l'accomplissement en nous et par nous. Oui, qui doivent trouver leur accomplissement parce que l'Écriture ne peut pas être annulée. Dieu, jusqu'à la fin, veillera sur sa parole pour l'accomplir au temps convenable, toujours de nouveau. Donc, réjouissons-nous de tout, surtout de tous les peuples, les langues et les nations que le Seigneur a déjà appelé à sortir. Et nous réjouissons encore concernant ceux qu'il appellera encore à sortir. Je l'ai déjà dit, Dieu a eu un temps pour mettre les prédications à la disposition de son peuple. Il y a eu aussi un temps pour que ces prédications-là ensuite soient traduites dans les différentes langues et que maintenant cela plaise au Seigneur de nous utiliser, nous tous, pour que la moisson soit récoltée. Je ne sais pas comment vous pensez. Cela n'est pas aussi important comme nous pensons tous. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions être accordés avec Dieu et sa parole. Ça, c'est très important. Et que nous commençons à penser les pensées de Dieu. Elles sont justement plus hautes que les nôtres. Telles que ses voix sont plus hautes, sont au-dessus de nos voix et ses pensées au-dessus de nos voix. Dieu a fait connaître ses voix à Moïse et aux enfants d'Israël, ses œuvres. Dieu est encore aujourd'hui le même. Qui nous a fait connaître ses voix aujourd'hui à son peuple. Et nous savons que le retour du Seigneur est devant la porte. Et nous savons aussi les paroles des promesses pour nos jours et l'accomplissement des différents versets bibliques, comme nous pouvons les lire. Comme c'est merveilleux, tout ce que Dieu fait, on peut le contrôler. C'est examinable. On peut sonder les Écritures, les Saintes Écritures et constater si cela est exact ou pas. Et quand on reçoit de la parole, dans la parole, on trouve cette réponse de Dieu, alors on se tient sur un roc. Alors les tempêtes peuvent venir et les vents peuvent souffler. Rien n'arrive. On reste debout selon la parole du Seigneur, comme l'homme sage qui a construit sa maison sur le roc. Quand la pluie, les torrents sont tombés et que les vents ont frappé la maison, elle est restée debout parce qu'elle était fondée sur le roc. Jésus-Christ est le rocher du salut. Paul dit, personne ne peut poser un autre fondement en dehors de celui qui a déjà été posé. Et ça, c'est Christ. Pierre écrit que les incroyants trébuchent sur lui dans leur désobéissance à la parole, désobéissance à laquelle ils sont aussi destinés. Pour les incroyants, il est devenu une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Mais pour les croyants, il est le rocher du salut et la pierre angulaire, précieuse, la pierre choisie sur laquelle l'Église est fondée. Et c'est peut-être raison qu'elle surmontera tout et les portes de Jésus de mort ne pourront pas contre elle, même si nous avons parfois peu de courage. Ça, nous l'avouons. Mais il y a une chose que nous savons dans la profondeur de notre cœur, au fond de notre cœur, nous savons que Dieu achèvera l'œuvre qu'il a commencée, et cela de manière majestueuse, en puissance et en gloire. Pas dans une défaite, mais dans le plus grand triomphe de tous les âges. Nous qui parfois avons des échecs, nous trouvons difficile, n'est-ce pas, de croire à cela. Non, mais nous pouvons toujours croire Dieu malgré nos propres échecs. Si Dieu avait eu un échec, ça aurait été différent, mais Dieu ne peut pas avoir d'échec. Dieu est Dieu. Il reste fidèle dans toute éternité. Et notre infidélité, nos échecs ne peuvent pas, n'est-ce pas, annuler la fidélité de Dieu. Il reste malgré tout fidèle, cela jusqu'à la fin. Donc encore une fois, je voudrais l'exprimer que je me réjouis avec vous de vivre ces jours, les amis de la Suisse, nos amis de l'Autriche, nos amis de partout, et pas seulement nos amis, mais les amis de Dieu. Car qu'est-ce que nous lisons concernant Abraham? Il était un ami de Dieu. Qu'est-ce que nous lisons dans Jean 15? Vous êtes mes amis, parce que je vous ai fait savoir tout ce que j'ai comme intention. Il nous appelle plus des servants, des esclaves serviteurs, des étrangers, mais des gens de sa maison. Dans ces jours, nous sommes le peuple du Seigneur dans ces jours. Croyez-vous cela? Amen. À 100%. Par sa grâce, nous sommes le peuple de Dieu dans ces temps. Des hommes qui ont expérimenté la rédemption par le sang de l'agneau. Des hommes qui se sont laissés corriger et qui se sont laissés reprendre, ramener et qui n'ont pas renoncé et qui n'ont pas dit « Oh, cela n'est pas correct, etc. » Non, vous savez, dans les jours du Seigneur, c'était la même chose. Alors que Jean apparaissait et aussi Jésus plus tard et après, les apôtres ensuite, les religions établies étaient tous contre eux et ont fait tout pour détruire l'œuvre de Dieu, jusqu'à même un Saul de Tarse qui avait trouvé nécessaire de persécuter l'Église de Dieu en pensant qu'il rend un service à Dieu. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cela? Qu'il y a des hommes ils sont aveugles religieusement et ils commettent des dégâts, ils détruisent, et en cela, ils persécutent et pensent avec cela servir Dieu. En se référant à la fin des temps, le Seigneur a même dit que le temps arrivera où l'un livrera l'autre à la mort, un frère trahira l'autre et pensera par cela rendre un service à Dieu. Comme nous pouvons être reconnaissants de ce que malgré toute cette confusion, nous avons un discernement clair de l'esprit. Et l'esprit ne discerne pas arbitrairement. Il discerne toujours selon la mesure divine. Et la mesure divine est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Il y a assez d'hommes, ils ont toujours, n'est-ce pas, des distinctions. Tout ce qui s'accordait avec leur concept était juste, et tout ce qui n'était pas en accord avec leur concept, leur façon de voir, était faux. Ça, c'était donc le don du discernement que, n'est-ce pas, ils ont eu durant tant d'années, beaucoup d'années. Mais aujourd'hui, c'est différent. Dieu seul a raison. Et tous les autres ont à se soumettre à la volonté de Dieu et ont à lui donner raison. Personne ne peut penser qu'on peut dire que Dieu n'a pas raison. Non, au contraire. Nous, en acceptant sa parole, en l'acceptant, c'est lui qui l'a prononcée, nous lui donnons raison de cette manière. Elle est contraignante pour nous en toutes choses. Nous voulons ensemble lire quelques Écritures et nous voulons ce soir réellement, dans la foi, prier pour ceux qui ont besoin de prière et qui sont venus spécialement pour ça, pour qu'on prie pour eux. Je voudrais commencer avec Éphésiens, le chapitre 1. Éphésiens, le chapitre 1. Ici, Paul écrit la chose suivante. Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 9. Car il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon son libre conseil dont il s'était résolu de mettre lui-même en œuvre sa réalisation dès que les temps seraient parvenus à la pleine mesure du développement des choses qu'il avait ordonnées. Il a voulu réunir en Christ comme la tête toutes choses uniformément qui sont dans les cieux et qui sont sur la terre. Jusqu'ici, cette parole précieuse. Ça dit que nous lisons ici, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon son libre conseil, dont il s'était résolu de mettre lui-même en œuvre sa réalisation. Dieu a une résolution, un plan qu'il exécute. Il est écrit ici, dès que les temps seraient parvenus à la pleine mesure de l'acheminement du développement des choses qu'il avait ordonnées. Pas quand nous nous dirons que le temps est arrivé pour cela, mais dès que le conseil divin dans son acheminement est parvenu à sa pleine mesure, où Dieu veut que certaines choses arrivent, alors elles arriveront. Aucun homme a une influence là-dessus, mais tous, nous pouvons en avoir part. Imaginez-vous ce que cela aurait comme résultat si nous avions une influence sur le conseil divin, sur la répartition. Quand est-ce que quoi doit s'accomplir? Alors, chacun voudrait autre chose. Hein? Alors, qu'est-ce que ce serait? Ce serait un désordre. Non. Aucun homme a de l'influence là-dessus, car toutes ces choses sont entre les mains de Dieu dans son plan merveilleux éternel, mais nous avons tous la grâce vraiment d'avoir part à cela. Et à nous, à l'action de l'influence de Dieu, de l'influence divine, car tout ce que Dieu fait a un impact, laisse un effet en tous ceux qui l'ont écouté, entendu et expérimenté personnellement. Pour nous, la parole de Dieu n'est plus une chose que nous lisons seulement, ou bien qui sera écrite dans un livre. Non, pour nous, ce n'est pas seulement un livre. Pour nous, la parole de Dieu est esprit et vie, oui et non. N'est-ce pas? Pour nous, la parole de Dieu est esprit et vie. Elle est une nourriture spirituelle. Elle est devenue pour nous une nourriture spirituelle. Donc, Dieu, selon sa libre volonté, il exécutera tout ce qui s'est proposé de faire. Il mettra lui-même en œuvre sa réalisation. Dès que les temps seraient parvenus à la pleine mesure de l'acheminement, du développement des choses qu'il avait ordonnées, tous ceux qui ont pris part à l'histoire divine du salut étaient insérés dans l'événement du salut selon le développement divin, bien ordonné selon l'époque et le mandat. Donc, c'est comme ça aussi dans nos jours. Je voudrais vous lire cela. Comment est-ce que de Jean-Baptiste, il est écrit, dans Luc, chapitre 3, ici il est écrit, dès le verset 2 jusqu'au verset 6. Luc, chapitre 3, verset 2 et jusqu'au verset 6. Et du temps des souverains, sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il parcourut donc toute la région du Jourdain, prêchant un baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe, une voix crie à haute voix dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez-lui ses sentiers, que toute vallée soit comblée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que ce qui est tortueux soit redressé et que les chemins raboteux soient aplanis. » Et que toute l'humanité voit le salut de Dieu. C'est ainsi que cela a commencé. Le frère Rousse avait lu de 2 Corinthiens 6 concernant le jour du salut. Maintenant, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est le temps favorable. Quand le temps était arrivé selon l'acheminement du développement divin, La parole de Dieu fut adressée à Jean-Baptiste et déjà un homme a apparu envoyé de Dieu avec le message divin pour l'époque. Et il était celui qui pouvait dire, celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux écoute le cri de joie de l'épouse et cette joie est qu'elle amène maintenant parfaite. Donc, quand le développement divin était arrivé à sa pleine mesure, comme on a lu dans Éphésiens 1, verset 10, Dieu a veillé cette parole pour l'accomplir. Jean n'avait pas besoin de s'inquiéter. La parole de Dieu lui a été adressée. Et c'est après que la parole lui fut adressée qu'il a apparu. L'appel et être déterminé à ce devoir, il était depuis le ventre de sa mère. Ça, nous l'avons lu, la parole fut adressée à Zacharie alors qu'il était, n'est-ce pas, à la droite de l'Holocauste, de l'autel des Holocaustes. Mais ensuite, a suivi l'établissement dans la mission de Jean-Baptiste. Le développement divin était arrivé à sa pleine mesure. Alors Jean-Baptiste a apparu, un homme envoyé de Dieu. Il a parcouru toute la région et a prêché un baptême de repentance. Ensuite, au verset 4, ce que nous relevons toujours ici, Luc 3, verset 4, selon ce qui est écrit dans le livre des prophètes, des paroles du prophète Ésaïe, pas comme quelqu'un le voulait, ou bien le disait, ou bien l'interprétait, mais selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète, cela saisit mon cœur. De ce que Dieu, ce qui inonde nos cœurs, c'est que Dieu envoie d'abord sa parole et fait connaître ses promesses à son peuple. Puis, la foi en nous devient une réalité divine dans la parole qu'il est sur le point de réaliser. Puis, ensuite, notre foi agit. Et ce n'est qu'alors que nous voyons l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Et aussi cette pensée, nous l'avons observée, que la vraie foi n'est pas une réflexion. La foi dans le vrai Dieu est toujours liée et dans le contexte des promesses divines. Vous pouvez lire toute la Bible, si ce n'est qu'une promesse fut prononcée de la bouche de Dieu, sinon personne n'aurait su ce qu'il doit croire. Les hommes qui font confiance à Dieu ne croient pas à quelque chose comme ça, de quelqu'un qui croit à Dieu, il croit à la parole de Dieu, avec toute sa prophétie et avec toutes les promesses qui y sont contenues. De notre Seigneur, il est écrit tout de suite dans Luc 4, verset 17, on lui remit le livre du prophète Ésaïe, Luc 4, verset 17. Et quand il eut roulé le livre, il tomba sur l'endroit où il était écrit, verset 18, maintenant Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour porter le joyeux message aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, aux opprimés la libération, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Quel jour merveilleux, quelle heure merveilleuse. Le prophète Ésaïe est donné, le rouleau est donné à notre Seigneur. Et il est écrit ici, et quand il eut roulé le livre, qu'est-ce qu'il aurait pu ouvrir de plus que le passage qui dans ce jour-là se référait à lui? Quel verset il aurait dû encore ouvrir dans ces 66 chapitres? Mais sûrement, justement, ce verset et ce chapitre, ces versets qui se référaient à lui et à qui se référait à lui et à son service et à sa mission. Toutes ces choses, d'une manière parfaite et merveilleuse, sont classées dans l'ordre biblique par Dieu lui-même. Et nous tous qui croyons sa parole et qui l'aimons de tout notre cœur, et nous tous qui lui avons donné notre foi et qui l'aimons, nous voudrions nous laisser insérer de tout cœur dans ce développement historique du salut ordonné par Dieu pour qu'il puisse achever son œuvre. Je vais vous lire la parole du prophète Ésaïe. Elle est connue de vous tous. Ici, il est écrit au chapitre 61, verset 1 et verset 2. Ésaïe 61, verset 1 et verset 2. L'Esprit de l'Éternel Dieu est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint, pour porter un joyeux message aux affligés. Ésaïe 61, verset 1. Parce qu'il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux enchaînés la libération, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Quelle parole merveilleuse! C'est ainsi que c'est écrit plus de 800 ans dans le prophète. Et subitement, la parole était devenue une réalité. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, vint sur Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous l'avez sûrement tous lu dans l'histoire de la tentation. Directement après son baptême, ou bien lors de son baptême, l'Esprit de Dieu vint sur lui. Et ensuite, il est passé par la tentation. Et ensuite, il est écrit ici, comme on l'a lu dans Luc chapitre 4, dès le verset 14. Jésus retourna alors en Galilée dans la puissance de l'Esprit. Et la nouvelle de sa venue se répandit dans toute la région environnante. Il enseignait dans leur synagogue et était loué par tous. Ensuite, il est écrit plus tard, ce que justement nous venons de lire, que là-bas, dans la synagogue, il a lu du prophète Ésaïe. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit de la continuité de la mission de Jésus, du service de Jésus. Il s'agit de ce que le même évangile, avec le même effet pour tous ceux qui l'écoutent, soit prêché. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Nous voulons justement, en ce qui concerne cette partie-là, être apportée dans ces choses. Car c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons reçu assez d'enseignements. Je ne crois pas qu'il y ait eu un temps dans lequel la parole de Dieu ait été apportée dans un si grand volume, dans une si grande vue d'ensemble, contenant tout, comme dans cette génération. Nous devons nous mettre à la place de ceux qui, par exemple, ont lu Genèse 3 sans savoir ce qui s'est passé vraiment dans le jardin d'Éden. Combien ont lu sans savoir ce qu'ils lisent, sans comprendre ce qui était écrit. Dieu nous a accordé un privilège exceptionnel par sa grâce. Et ça aussi, je l'ai dit en le répétant, tous les prophètes et tous les apôtres peuvent s'asseoir ici parmi ceux qui écoutent. Nous prêcherons ce que nous avons prêché, car c'est l'absolue et pure vérité de la parole de Dieu. Nous n'avons rien interprété et rien retranché et rien ajouté. Nous croyons comme l'a dit les Écritures. Tel que dans l'enseignement, nous avons été insérés introduits dans la parole de Dieu, maintenant comme Église et vraiment comme maintenant en tant que l'Église et vraiment en tant qu'Église entière, nous devons être amenés à nous mettre d'accord sur l'impact des promesses. Nous devons prendre au sérieux les promesses qui ont été données, car elles ont été données à l'Église du Dieu vivant. Et ça, frère Branham le dit d'une manière si merveilleuse, une fois à un prédicateur qui était venu à lui et qui lui expliquait que le temps des apôtres, avec tout l'accompagnement des prodiges et des miracles naturels, est passé. Et alors, l'homme de Dieu a dit comme ça, du fond du cœur, dans le calme, « Moi, écoute, je te montrerai où est-ce que le Seigneur a donné les promesses et comment est-ce qu'elles se sont accomplies. Et toi, montre-moi où est-ce qu'il les a annulées et qu'il les a annulées. » Donc, oui. Et ça, aucun homme ne peut le faire. Non plus ceux qui ne peuvent pas croire à la parole de Dieu et qui ne veulent pas croire à la parole de Dieu. Mais cela reste valable. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Ça, je le croirais même si je n'ai pas la foi qu'il se révèle encore aujourd'hui comme le même, que cela est vrai. Car ça pourrait être ainsi que Dieu a différents services, différents personnes qui pensent subitement quelqu'un qui a la foi pour que les dernières promesses trouvent l'accomplissement. En fait, je pense que ensemble, nous allons aller de l'avant et nous tenir à la disposition du Seigneur ensemble. L'écriture que le frère Branham a souvent mentionnée commence à toujours plus à parler à mon cœur. Et je pense que c'est le temps d'en parler. Je veux dire, de penser à cela, pas seulement moi, mais nous tous, nous devons nous mettre à la disposition de Dieu. Peut-être que j'ai achevé mon devoir et que Dieu, maintenant, en général, veut bénir et agir dans tout son peuple et utiliser et bénir tout son peuple et établir dans le service tout son peuple. Dans Jean 14, verset 12, la promesse suivante est écrite. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et même des œuvres plus grandes que celles-ci. Cette promesse n'est pas écrite au singulier, faisant référence à quelqu'un de spécial, mais il est écrit « Celui qui croit en moi ». Comme dans Marc 16, verset 16, il est écrit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et celui qui croit et qui se laisse baptiser. » Ici, il est écrit « Celui qui croit en moi ». Et nous venons maintenant au centre de la chose. Croire en lui véritablement ne peut que celui à qui il s'est révélé comme celui qu'il est réellement. Celui à qui le Seigneur s'est révélé réellement. Est-ce que vous comprenez? La vraie foi est comme nous pouvons le lire dans Jean 7, ici il est écrit au verset 38. Celui qui croit en moi, comme l'a dit les Écritures, de ce cœur couleront des eaux de vie. Pas seulement celui qui croit en moi, mais celui qui croit en moi, comme le dit les Écritures, comme l'a dit les Écritures. Et je voudrais justement vous dire la chose suivante concernant ce point, pour que vous puissiez comprendre qui sont ceux qui, avec autorité divine et droit divin, peuvent utiliser le nom de Jésus-Christ pour que par eux, la puissance de Dieu soit manifestée telle qu'elle a été manifestée par Jésus-Christ lui-même. Et pour ça, il est nécessaire que nous puissions reconnaître exactement le contexte duquel il s'agit ici dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean, au verset 12. Je lis maintenant à partir du verset 8 pour avoir bien le contexte. Jean 14, verset 8. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Alors Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas encore reconnu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Non, le Père qui est continuellement en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Ici, nous devons lire très exactement, comme avec toutes les paroles de Dieu. Il y a une chose ici encore. D'abord, il est parlé, je vais dire, premièrement, dans la première partie du verset 10. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Non, le Père qui est continuellement en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Ici, il y a deux choses qui vont ensemble. Premièrement, le service de la parole parlée, donc de la parole qu'on prononce, c'est-à-dire que ce qui doit arriver, ce que Dieu veut faire, nous le prononçons. Et la deuxième chose, ce sont les œuvres qui confirment la parole prononcée. Avez-vous compris cela? Mais avant que cela soit possible, nous devons reconnaître qui est le Seigneur. Il n'est pas quelqu'un de quelconque. Il est Dieu manifesté en forme humaine. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Le roi de tous les rois et le Seigneur de tous les seigneurs. Philippe lui a demandé et lui disait, montre-nous le Père. Il a dit, mais je suis si longtemps déjà avec vous et tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Après cette révélation puissante de Jésus-Christ, suit la promesse. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, des œuvres plus grandes et même des œuvres plus grandes que celles-ci. Une continuité de la révélation divine, de la puissance divine, de la révélation de Dieu, de l'annonce de la parole de Dieu, de la prédication de l'Évangile, mais aussi une continuité du ministère, de la mission de Jésus-Christ notre Seigneur dans son Église, et cela dans son Église qui est en accord total avec lui, qui est accordé totalement avec lui. C'est pour cette raison qu'il était nécessaire de mettre l'Église en conformité avec sa parole pour qu'il puisse ensuite confirmer la parole que nous prononçons sur la base des promesses divines, qui ainsi peut être confirmée par les œuvres. Ici, nous lisons le verset 11. « Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi. » Une question. Il n'est pas écrit que Christ en nous est là. Et l'espérance de la gloire n'était pas écrit. Et Colossiens 3 n'était pas écrit que par la foi, il voulait habiter dans nos cœurs. Ephésiens 3. Versets 15, 16, 17. Alors, tel que Dieu lui-même était en Christ et pouvait se manifester sur cette terre, dans ce corps saint, il pouvait parler et agir dans ce corps. C'est ainsi que Christ a payé le prix à Golgotha pour se racheter un corps, pour se racheter une église, pour se créer une église qui est sa propriété et la purifier dans son sang, dans sa parole, la sanctifier pour qu'il puisse avoir des bouches par lesquelles il peut parler, des mains par lesquelles il peut imposer les mains aux malades, pour que des hommes se tiennent à sa disposition, qu'il peut utiliser et bénir, qui sont dans son corps, une partie de son corps, tel que Frère Branham a été établi et utilisé par Dieu, bien sûr d'une manière puissante, la parole a été confirmée. C'est ainsi que maintenant, cela doit arriver, et c'est ainsi que cela va arriver maintenant dans toute l'Église, maintenant à la fin. Et je suis arrivé à ce point où je ne veux plus attendre longtemps. Cela me semble que le temps est venu où nous ne devons pas seulement parler de ces choses, mais ce qui s'est produit autrefois doit se répéter comme œuvre de la parole parlée, de la parole prononcée, pas des paroles vides, mais des paroles pleines que Dieu ensuite peut confirmer. Au verset 13, cela est encore ici, souligné, car je vais vers le Père. Jean 14, verset 13 maintenant. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, nous devons revenir à la foi, à la parole, à la prière et ensuite au courage de prendre Dieu au mot, de prendre Dieu à sa parole, de croire que le Seigneur confirmera aussi les promesses qu'il a données. Si ce soir, nous pouvons croire que nous avons le même évangile et que la même puissance de Dieu encore aujourd'hui est à notre disposition, est encore réelle, est encore là. Alors, il faut que les mêmes œuvres comme confirmation de la parole de Dieu soient manifestées. Alors, ceux qui sont perdus doivent être sauvés. Ceux qui sont liés doivent expérimenter la délivrance. Alors, il faut que tout ce qui s'est passé autrefois et que le Seigneur aussi témoignait ce qui contenait son service, sa mission, alors il faut que une continuité de ce service, de cette mission, soit manifestée. Comme il est écrit de notre Seigneur, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour que je puisse aux pauvres apporter le joyeux message. Donc, l'onction appartient à ce service. Donc, et ça, nous avons toujours eu à le souligner. Il y a deux choses. Christ, par l'Esprit, a été engendré. Ça, nous le savons tous, car c'est ce qui est écrit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et aussi, dans Matthieu chapitre 1, il est écrit, ce qui naîtra de toi est du Saint-Esprit. Donc, il a été engendré par l'Esprit, ou bien dans Luc 1. Mais le jour de son baptême, l'Esprit de Dieu vint sur lui. Donc, pas seulement engendré de l'Esprit et ensuite né, mais du même Saint-Esprit, il a reçu la puissance, il a été revêtu. Et ensuite, ce n'était pas seulement un engendrement par l'Esprit. Maintenant, il pouvait dire, l'Esprit de Dieu, du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a oint, pas seulement engendré, mais oint. Engendrement et onction. Donc, naissance et revêtement, ce sont deux choses qui sont tout à fait différentes. Donc, l'une, c'est l'engendrement par l'Esprit et l'autre, c'est l'onction et le revêtement avec l'Esprit, de l'Esprit, c'est aussi comme ça avec nous. Par la parole de la vérité, par l'Esprit de Dieu, nous sommes engendrés. Donc, nés de nouveau et ensuite, nous sommes par la nouvelle naissance des fils et des filles de Dieu. Mais ensuite, il faut que cette nouvelle, que ces fils et ces filles de Dieu nés de nouveau reçoivent la même onction, la même puissance comme revêtement pour le service, pour les devoirs multiples qui sont donnés et qui ont été donnés à l'Église. Bien sûr que nous sommes enfants de Dieu tant que nous avons expérimenté la nouvelle naissance. Jésus-Christ n'est pas devenu fils de Dieu avec l'onction qui vint sur lui. Comme fils de Dieu, il a été engendré et ensuite il est né. Selon la parole de l'Écriture, tu es mon fils bien-aimé, aujourd'hui je t'ai engendré. Pas tu es mon fils bien-aimé, aujourd'hui je t'ai oint, mais tu es mon fils bien-aimé, je t'ai aujourd'hui engendré. Ensuite, c'est écrit en fait dans le psaume 2, ensuite il est écrit, exige de moi les nations comme héritage et je te donnerai les extrémités de la terre. Tout cela était déjà écrit. Tout aussi à sa place. Donc, nous devons réellement, après tout cet enseignement, croire que Dieu répand sur nous la puissance de son esprit et que les os, les membres, les différents membres, pour que les membres, les os soient joints et se tiennent sur leurs pieds comme Ézéchiel l'a vu. Le prophète dans le chapitre 37 voyait comment ils étaient éparpillés, mais ils étaient là, mais ils n'étaient pas encore joints. Paul écrit dans 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13, que c'est par un esprit, par le même esprit que tous nous avons été joints dans un seul corps, pour avec un seul esprit, nous avons été, et ensuite par un seul esprit, nous avons été abreuvés, baptisés dans un même corps. Nous voulons le dire clairement. Nous sommes devenus enfants de Dieu parce que nous sommes nés de nouveau par l'esprit et par la parole. C'est ainsi que nous l'avons déjà dit, c'est ainsi que nous l'avons aussi expérimenté. Mais maintenant, nous voulons, par la grâce de notre Dieu, expérimenter que cette puissance de Dieu qui vivifie, cette puissance de Dieu, cette puissance des dieux, ce revêtement puissant divin qui n'est plus à notre contrôle, mais qui est la puissance de Dieu, qui nous soumet à Dieu, qui nous met à la disposition de Dieu, qui nous consacre à Dieu. Et frère Branham utilise ici cette comparaison avec un vase dans l'Ancien Testament. Les vases ont été d'abord purifiés et ça c'était la première expérience. Mais ensuite, ils ont été remplis et ainsi placés dans le service, au service. Nous avons souvent chanté « Être qu'un vase, saint maître, mais rempli de ta puissance. » Cette puissance de Dieu doit venir sur l'Église avant que les mêmes choses puissent se produire qui étaient possibles dans le service de Jésus et ensuite aussi à travers l'Église primitive plus tard. Vous savez tous que ce soit notre Seigneur ou bien que ce soit l'expérience de la Pentecôte. Et je ne parle pas ici de ce que nous devons ouvrir une église pentecôtiste. Non, je suis en train de parler du Saint-Esprit. C'est une grande différence. Est-ce que nous regardons aux dénominations qui emploient des expressions et bibliques et des noms, ou bien alors est-ce que nous croyons que nous pouvons nous attendre à la puissance du Saint-Esprit, à la puissance d'en haut qui doit être manifestée par l'Église? Avant que cela soit possible, nous devons croire que cela est nécessaire. Nous devons savoir que ces promesses-là sont pour nous données dans la parole de Dieu et que nous devons être remplis de la puissance d'en haut, revêtus de la puissance d'en haut. Sinon, ce n'est pas possible. Auparavant, ce sera que des efforts personnels. Mais si nous comprenons que c'est une promesse de Dieu et que c'est le bras de Dieu qui, par notre foi, est détendu, alors tout sera rempli. Vous savez que l'Esprit de Dieu est comparé à de l'huile et tout ce qui frotte encore, qui ne veut pas encore rouler correctement. Alors, quand il y a de l'huile, tout roule. Alors, c'est-à-dire au moment où l'huile de l'Esprit, la puissance, le revêtement de la puissance d'en haut vient dans l'Église. Et je souhaiterais que cela réussisse au Seigneur de nous montrer que Dieu veut se manifester et que les promesses ont été données justement pour ça, pour nous montrer qu'il veut et que pour nous montrer aussi que le temps dans son développement est arrivé à sa pleine mesure et que nous devons nous attendre à ce qu'il veut se manifester. La question est la suivante seulement, est-ce que nous sommes prêts, malgré toutes les expériences qui peut-être ont été négatives, ou bien malgré les expériences que nous avons trouvé un peu étranges, malgré tout cela, est-ce que nous sommes quand même prêts à croire comme l'a dit les Écritures et nous attendre au revêtement de la puissance d'en haut? C'est seulement par cela que cela sera possible, que les mêmes œuvres se manifestent, soient manifestées. Je peux vous lire du prophète Zacharie, c'était dans l'Ancien Testament, mais nous croyons en cet endroit à toute la parole de Dieu. Et s'il est écrit dans Zacharie 4, bien remarqué dans ce contexte avec la dernière pierre, vous savez, les promesses sont tous un peu codées dans la parole prophétique et redonnées Mais ici, dans Zacharie chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 4, il nous a montré le chandelier en or et les conduits, et ensuite les deux prophètes, les deux oliviers, donc comme on peut le lire aussi dans Apocalypse chapitre 11 plus tard. Mais ici, dans Zacharie chapitre 4, à partir du verset 7, il est écrit: Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu deviendras une plaine. Il mettra la dernière pierre en place, hein, au milieu des acclamations. À toi le salut, à toi le salut. En outre, la parole de l'Éternel me fut adressée comme suite. Les mains de Zorobabel ont posé les fondements de cette maison, et ses mains aussi l'achèveront. Alors tu sauras que c'est l'Éternel des armées qui m'a envoyé vers vous. Car celui qui a méprisé le jour des petits commencements verra avec joie la dernière pierre dans la main de Zorobabel. Mais ces sept, là sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. En fait, je cherche la parole où il est écrit, ce n'est pas par force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, que cela arrivera. Par mon esprit, c'est ça que je cherche en fait. Avez-vous trouvé déjà? S'il vous plaît. Le verset 6. Mais je l'ai sûrement lu. Ah non, je ne l'ai pas lu justement. J'ai commencé avec le verset 7. D'accord, donc lisons maintenant le verset 6. Zacharie 4, verset 6. Voici la parole de l'Éternel à Zorobabel. Voici la parole de l'Éternel à Zorobabel. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous devons nous attendre à cela. Je souhaiterais que nous comprenions que le temps est arrivé maintenant. Par l'Esprit de l'Éternel, Dieu s'est donné tant d'efforts pour nous accorder l'enseignement, pour nous révéler la parole, pour inonder nos cœurs avec sa parole par l'enseignement. Maintenant, il veut, par des vases de terre, manifester sa puissance. Qui croit cela? Que Dieu, à la fin des jours, répandra son esprit encore une fois sur toute chair. Croyez-vous cela tous? Amen. Il faut que cela ait lieu. Et ce sont ces derniers jours dans lesquels nous vivons. Et c'est peut-être raison que cela sera manifesté dans nos jours. Moi, je n'appartiens pas à ceux qui disent, qui peuvent dire, bon, cela aura lieu demain. Non, ça, je le remets à Dieu. Je le laisse à Dieu de le savoir. Mais il y a une chose que je sais. Le même Dieu qui nous a fait naître de nouveau pour marcher en nouveauté de vie par sa parole et par son esprit. Le même Dieu qui par son esprit nous a conduits dans toute la vérité et qui a en nous créé une espérance vivante. En raison de toutes ces promesses, le même Dieu veille sur sa parole et il sait tout exactement, que nous faisons que représenter la mécanique, mais pas la dynamique. La dynamique vient de Dieu. Et cette dynamique, c'est l'Esprit de Dieu. Mais les deux sont nécessaires. Et les deux vont ensemble, la dynamique et la mécanique. D'abord la mécanique, et ensuite la dynamique divine, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Combien sont prêts à croire que Dieu répandra son esprit avec puissance, pas seulement de le demander et de comme des mendiants et de repartir déçus. Non. Mais dans une foi joyeuse, dans la certitude de la foi, remercier le Seigneur de ce qu'il l'a déjà fait pour qu'il puisse le faire. Car celui qui croit que Dieu répandra son esprit peut déjà maintenant lui dire merci de ce qu'il a déjà fait. Et alors, C'est comme ça que cela sera manifesté. Car ça, ce sont les chemins que Dieu emploie. D'abord, nous écoutons la parole de la promesse. Ensuite, nous la croyons et nous remercions Dieu aussi de ce qu'il a déjà accompli. Alors, nous le verrons ensuite arriver subitement. Je le crois. Je crois qu'après toutes ces années d'enseignement et de préparation, nous devons avoir assez appris de choses dans tous les domaines pour maintenant, ensemble, entièrement, nous mettre à la disposition du Seigneur. Sûrement que nous pouvons croire qu'il a béni d'autres et qu'il a utilisé d'autres personnes. Alors, regardons à nous-mêmes et nous, nous doutons et nous disons, mais comment est-ce que Dieu peut m'utiliser, moi? Non, c'est justement de tels hommes-là, de tels gens qui regardent à eux avec mépris et disent, mais qui suis-je? Moi, Dieu, sûrement pas. Dieu ne pourra sûrement pas m'utiliser. C'est justement cela que Dieu utilisera. C'est justement, croyez-moi, ce sont justement ceux-là que Dieu utilisera. Parce que si quelqu'un passe avec le nez élevé et dit, moi, je suis apte à être utilisé par le Seigneur. Moi, le Seigneur peut m'utiliser. Une telle personne ne sait même pas où Dieu habite et comment est-ce qu'il s'appelle. Il n'a jamais fait d'expérience avec Dieu. Il n'est pas encore venu dans sa présence. Jamais, non, non. Dieu veut que nous soyons humbles et que nous venons ainsi dans sa présence. Mais dans la foi et la confiance, pas affligé, mais en sachant que Dieu l'a dit, Dieu l'a promis, nous avons sûrement compris de la parole adressée aux Éphésiens que nous avons lue. Quand le temps sera arrivé dans la pleine mesure de son développement, fixé par Dieu, et que Dieu a un reste sur lequel il peut répandre son esprit, alors cela aura lieu. Les promesses, il les a données. Et il les accomplira certainement. Son conseil nous a été révélé. Nous croyons et nous nous tenons à sa disposition. Plus que jamais auparavant, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté et nous le croyons de tout notre cœur. Aussi vrai, dès que les développements fixés par lui auront atteint leur pleine mesure, comme c'est écrit dans Éphésiens 1, verset 10, Dieu fera ce qu'il a promis. Dès que Jean-Baptiste a commencé son service, sa mission, et comment est-ce que le Seigneur Jésus est né et a commencé sa mission et que tout a eu lieu selon les Écritures, sa mort et sa résurrection. C'est comme ça que cela a été dans tout le déroulement de l'histoire du salut. Quand le temps est arrivé où Dieu, avant le jour terrible et redoutable éternel, envoie son prophète, il l'a fait, il l'a appelé, il s'est révélé à lui. Oui, la lumière, la colonne de feu était suspendue avant sa naissance. Donc, dans cette hutte simple, qu'est-ce que c'était? Le Seigneur voulait montrer. Ici, j'ai mis ma main sur cet enfant, sur cet homme. Je parlerai par lui et j'agirai par lui. Et est-ce qu'il a fait? Oui, il a fait. Dieu l'a fait. C'est exactement ce qu'il fera de manière surnaturelle. Il continuera à parler et il continuera à agir. Il n'a pas seulement promis un prophète, il nous a promis jusqu'à la fin d'être avec nous, jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. C'est pour cette raison que nous voulons croire à toutes ces paroles que nous ont été apportées. Nous voulons les recevoir en nous et que Dieu puisse à cette parole que nous avons reçue dans notre cœur, répandre son esprit. Maintenant, il ne dépend plus de savoir avec quelle haute voix la parole est prêchée ici de devant. Maintenant, il s'agit de ce que tous ceux qui croient la parole promise pour ce temps personnellement reçoivent, expérimentent la puissance de Dieu. Ils reçoivent la parole de Dieu comme puissance de Dieu. Il ne s'agit plus maintenant d'apporter une puissance prédication, mais il s'agit que pendant la prédication, la puissance de Dieu soit agissante. Il faut qu'elle passe du podium au peuple. Nous devons tous faire nos expériences personnelles avec Dieu. Et là, je suis plein de confiance que le Seigneur, qui d'une manière si merveilleuse a commencé, il achèvera son œuvre avec puissance et gloire. Il exécutera ce qu'il s'est proposé de faire. Il mettra lui-même en œuvre la réalisation de son conseil avant le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Plus un grand homme de Dieu, mais le grand Dieu dans ce petit peuple qu'il a appelé à sortir, à qui il a parlé, à qui il s'est révélé, qui croit sa parole et qui a reçu ses promesses des hommes qui marchent avec lui jusqu'à qu'il achève son œuvre, il puisse achever son œuvre. Ici, dans Zacharie, nous l'avons lu, que nous ne devons pas mépriser les faibles commencements, car la dernière pierre, subitement, sera posée à sa place, en place au milieu des acclamations. À toi le salut, à toi le salut. Zacharie 4, verset 7. Comment est-ce que ce sera? Oui, salut à celui qui vient au nom du Seigneur. Si cela déjà pouvait être comme ça, que lui qui est la pierre angulaire et la dernière pierre, la pierre du fait, s'il pouvait déjà revenir pour couronner son œuvre et nous prendre auprès de lui dans la gloire par l'enlèvement. À lui, le Dieu fidèle, qui est devenu notre sauveur, à lui soit l'honneur dans toute éternité. Amen. Levons-nous pour la prière. Peut-être que nous chantons d'abord ce cœur tel que je suis sans rien de moi. Tel que je suis sans rien de moi. Pas ma force, mais seulement toi et toi seul. Ton sang me lave pur du péché. Ô Dieu, ô agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, sans rien de moi, pas ma force, mais seulement la tienne, ton sang. Me lave. Ô agneau de Dieu, je viens. Père céleste, tu nous vois tous. Tu sais que nous voulons te croire. Tu as révélé ta parole. Maintenant que tu puisses révéler ta puissance. Tu as manifesté ta parole, maintenant que tu puisses manifester ta puissance. Seigneur, comme tu disais toi-même, ce n'est pas moi qui fais ces œuvres. Ainsi, nous aussi, nous voulons pouvoir dire bientôt, ce n'est pas nous qui faisons ces œuvres. Nous prononçons dans la foi ce que nous avons demandé en raison des promesses que tu as données. Et nous regardons comment est-ce que ça arrive, comment est-ce que ça s'accomplit. Seigneur, nous voulons nouvellement expérimenter que ton esprit, d'une telle manière puissante, agisse et que des hommes, sous l'écoute de la parole de Dieu, doivent dire, qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés frères, pour être sauvés. Que tu puisses envoyer ta parole pour délivrer ceux qui sont, délivrer les captifs, sauver les perdus, guérir les malades. Oh Seigneur, viens avec l'onction de ton esprit sur nous, sur toute l'Église dans le monde entier, et que ta parole devienne, pour que ta parole puisse devenir une réalité divine, et que tout le pouvoir de Satan soit brisé, et que les captifs soient délivrés et que ceux qui sont liés soient libérés selon ta parole, selon l'évangile de Jésus-Christ notre Seigneur, ce même évangile du royaume. Oh Seigneur, accorde l'autorité pour que tout esprit soit lié et chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que seulement ton esprit parmi nous puisse agir et être, et que tous ceux qui sont liés sois délivré, reparte libre, bien-aimé Seigneur, que tu puisses faire le commencement sur le podium, que nous puissions vivre l'heure dans laquelle, en accord avec ta parole, comme une réalité expérimentée, nous pouvons dire, l'Esprit de l'Éternel se repose et sur moi. Ô bien-aimé Seigneur, tu nous as conduits par ton Esprit dans toute ta vérité et tu nous as révélé ta parole. Tu nous as révélé ton nom. Tu nous as révélé les mystères. Maintenant que tu puisses répandre ton Esprit sur nous et qu'il se repose sur nous, qu'il soit sur nous, que nous soyons oints pour que tes œuvres se répètent par l'Église, pour que ce qui s'est passé par ton service se répète par l'Église. Accorde la foi, accorde l'assurance. Je te remercie pour tous mes frères et pour toutes mes sœurs. Seigneur, c'est un temps merveilleux, un temps glorieux, le jour du salut qui va vers sa fin, le temps de la grâce qui aussi va vers sa fin. Mais encore une fois, tu fais de grandes choses. Loué et exalté soit ton merveilleux nom. Tu ôteras tous les obstacles, tout ce qui dérange, et tu feras un chemin à ton peuple pour que la gloire du Seigneur soit manifestée et que toutes les extrémités de la terre voient le salut de notre Dieu. Bien-aimé Seigneur, cela n'est pas encore accompli, mais cela va s'accomplir. Toutes les extrémités de la terre verront ta gloire, verront le salut de notre Dieu. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur, comme c'est écrit dans Luc 3, verset 6. Nous te remercions, nous te demandons que tu puisses avoir ton chemin parmi nous, dans notre vie, et que toute l'humanité voit le salut de Dieu. Ôte de nous ce qui nous afflige, ce qui nous retient, ce qui se tient en obstacle sur notre chemin. Ferais-toi toi-même un chemin. Ferais-nous un chemin. Ôte tous les obstacles du chemin de ton peuple. Unis ton peuple dans ton nom, en ton nom, dans ta parole, dans ta puissance. Alléluia. Gloire et honneur te soient apportés de tout notre cœur et de toute notre âme, dans le merveilleux nom et saint nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire soit à notre Dieu. Alléluia. Gloire soit à notre Dieu. Il a envoyé sa parole et nous a guéris. Il a accordé l'enseignement et la révélation. Alléluia. Alléluia. Gloire soit à notre Dieu. Gloire soit à notre Dieu. Alléluia. Nous voulons chanter le chœur. Alléluia, alléluia. Je suis racheté, sauvé par son sang. Alléluia. Je suis sauvé par son sang. Alléluia. Alléluia. Quel bonheur pour moi. Alléluia. Alléluia. Le Sauveur est mien. Alléluia. Comme c'est merveilleux d'être sauvé. Alléluia. Alléluia. Je suis sauvé par son sang. Alléluia. Alléluia. Quel bonheur pour moi. Alléluia. Alléluia. Le Sauveur est mien. Alléluia. Quel bonheur d'être sauvé. Alléluia.